Voix.com.
Les paractualités. Bonjour et bienvenue à l'émission Les paractualités du 20 février 2018. Hélène Denis au micro. En manchette aujourd'hui, santé mentale, l'attitude des assureurs placés sous les projecteurs. Le ministre André Fortin refuse de relancer le débat sur le virage à droite au feu rouge. Rimouski sabre les subventions de 4 organismes en santé. Des excuses réclamées pour l'internement de personnes handicapées en Nouvelle-Écosse. Et en entrevue, je reçois Isabelle Simonato, sœur de Martin et membre du regroupement pour la trisomie 21, et Christine Rousseau, animatrice des émissions Voir grand et de Ça me regarde à Ami Télé, qui viendra nous parler de la série documentaire « Voir grand » consacrée aux maladies de l'œil et aux avancées scientifiques dans ce domaine. Nouvelle tirée du Devoir, santé mentale, l'attitude des assureurs placés sous les projecteurs. Il suffisait de lancer l'appel pour que les échos se fassent entendre. Les mots de l'auteur Samuel Archibald ont délié la parole et plusieurs personnes se sont jointes à lui pour dénoncer l'attitude des compagnies d'assurance devant la dépression. « Je ne fais pas une vraie dépression et je suis un fraudeur. » Dans une lettre publiée dimanche dans la presse Plus, dimanche pas celui qui vient de passer mais l'autre d'avant, ce professeur de l'UQAM relatait le refus de son assureur, Desjardins, de lui verser des prestations d'invalidité malgré un diagnostic de dépression. La compagnie a évoqué certains gestes posés par l'auteur pour justifier ce refus, notamment une apparition à la télé, la publication d'un texte et une intervention à la radio, écrit-il. En réponse à cette lettre et à la déferlante de réactions, Desjardins Assurance a diffusé une mise au point se disant particulièrement sensible à cette cause. Le dossier de l'auteur en question sera réévalué au terme d'un processus de révision, mis en branle dimanche, a promis l'assureur. Tout comme les témoignages recueillis par Le Devoir, Samuel Archibald s'en prend à la froideur bureaucratique et à la rigidité des critères des assureurs. Le monde de l'assureur, de l'assurance, est conçu pour dédommager un dépressif idéal qui passerait 5 mois sous les couvertures à brailler et se réveillerait un matin tout sourire en criant « Bon, c'est réglé, moi je retourne à l'ouvrage, ironise l'auteur. Nouvelle dans le Journal de Montréal, le ministre André Fortin refuse de relancer le débat sur le virage à droite au feu rouge. N'en déplaise aux cyclistes et à différents groupes qui ont été entendus en commission parlementaire, le ministre des Transports, André Fortin, n'a pas l'intention de relancer le débat sur le virage à droite au feu rouge. On n'a pas l'intention de changer les paramètres du virage à droite, que ce soit pour les véhicules ou pour les cyclistes, a signalé le ministre Fortin à notre bureau parlementaire, alors que se terminaient hier les consultations sur le projet de loi 165 visant à réformer le Code de la sécurité routière. Si le projet de loi prévoit des amendes 5 fois plus salées pour les cyclistes et des sanctions encore plus importantes pour lutter contre le cellulaire au volant, rien n'est prévu en ce qui concerne le virage à droite. L'organisme Vélo-Québec est venu plaider pour que les cyclistes soient autorisés à effectuer les arrêts comme s'il s'agissait d'un céder le passage. Dans son mémoire, Vélo-Québec a aussi proposé que le virage à droite demeure interdit aux véhicules sur l'île de Montréal, mais qu'il soit autorisé pour les cyclistes. La PDG de Vélo-Québec, Suzanne Larrault, a notamment exposé que le virage à droite au feu rouge permet aux automobilistes d'économiser en moyenne seulement 15 secondes par jour et 2 à 3 litres d'essence par année. À l'instar de Vélo-Québec, Piéton-Québec est venu déplorer que 15 ans après l'autorisation du virage à droite au feu rouge, les craintes exprimées par la santé publique se sont avérées. On compte maintenant 70 blessés par année de plus au bilan routier en raison de cette mesure. Thank you. Chaque semaine jusqu'au 21 mars, Journée mondiale de la trisomie 21, on parle d'un thème de la vie d'un jeune vivant avec la trisomie 21 avec un membre de sa famille à travers une capsule vidéo. Sixième capsule vidéo d'une série de 10 cette semaine qui porte sur le thème « Le regard des autres » et j'en parle avec Isabelle Simonato, sœur de Martin et membre du regroupement pour la trisomie 21. Bonjour Madame Simonato.
Bonjour.
Merci d'être avec nous.
Merci à vous.
Alors, parlez-nous, Madame Simonato, de votre frère Martin. D'abord, quel âge il a?
Il a 29 ans.
Et quel genre de relation vous avez avec lui?
J'ai une excellente relation avec mon frère. On a seulement 3 ans de différence. Il est plus vieux que moi.
Oui.
J'ai eu la chance de jouer avec lui beaucoup quand j'étais enfant, ce qui a vraiment développé une très belle relation entre nous.
Et quelle est votre implication dans la vie de Martin et vice-versa, quelle place il occupe dans la vôtre?
Il occupe une très grande place, lui, dans ma vie. C'est sûr qu'on communique par message texte à tous les jours, on se parle plusieurs fois par jour.
Vous ne vivez plus sur le même toit?
Non, moi, je suis rendue en appartement seule. Lui, il habite toujours chez mes parents.
OK.
Mais on communique encore régulièrement grâce à la technologie. C'est le fun maintenant. On peut soit se voir ou s'écrire.
Oui, oui. Ça garde le contact. Est-ce que vous pratiquez des activités ensemble?
Oui, j'essaie de faire des activités avec lui à peu près une fois par mois. Il vient dormir à mon appartement. Ça permet aussi de laisser un répit à mes parents entre-temps.
Mm-hmm.
Puis lui, ça le fait sortir de la maison, on fait toutes sortes d'activités, moi je viens de la Rive-Sud, fait que lui il aime beaucoup quand on va à Montréal puis prendre le métro, c'est quelque chose qu'il fait pas habituellement.
Et lui, il est où?
Il habite à Saint-Jean-sur-Richelieu, sur la Rive-Sud.
D'accord. Est-ce que vous vous souciez du regard des autres parce que c'est le thème abordé dans la capsule vidéo à laquelle vous avez participé?
Plus maintenant, quand...
Ça a déjà été le cas?
Quand j'étais plus jeune, il y a eu une petite phase où j'ai passé par le regard des autres était plus important. Quand j'ai le début de la préadolescence, si on veut, là, entre 10 et 12 ans à peu près, qu'on se dit « Ah, mais on veut être normal et avoir un frère trisomique, ça fait pas partie, selon nous, de la normalité.
Mm-hmm. »
Ce qui fait que je voulais pas nécessairement en aborder avec mes amis. Je voulais pas, si je rencontrais une nouvelle personne, c'était pas la chose que je disais d'emblée. Par contre, mon...
Alors,
frère,
c'était plus vous que le regard des autres?
Oui, c'était plus ma peur du regard des autres envers mon frère.
Oui, oui, oui.
Parce que mon frère a toujours été intégré, puis il est très social comme personne, ce qui fait que quand on allait à l'épicerie ou qu'on allait au centre d'achat, il y a toujours des gens qui le connaissaient.
Oui, il
se faisait aborder, peu importe où on allait dans un lieu public, il se faisait au moins aborder par une personne, ce qui fait que ça l'a emmené à diminuer mon souci du regard des autres.
Oui.
Toutes les expériences que j'avais, c'était des expériences positives où les gens abordaient mon frère sans que lui les aborde de son chef.
Un peu comme une leçon que votre frère vous a donnée parce que lui, il ne s'en souciait pas du regard des autres.
Il ne s'est jamais soucié du regard des autres.
Non, non, non. Et donc, en grandissant, aujourd'hui, vous dites que non, c'est terminé ça, cette espèce mm-hmm. de crainte du jugement.
Oui, c'est vraiment totalement terminé. Même que je m'amuse quand on sort à Montréal, je m'amuse plus à voir comment les autres le regardent.
Ah oui?
Oui, quand je vois les gens qui le regardent d'un drôle d'air, tout ce que je me dis, c'est ils n'ont pas eu la chance de côtoyer des personnes, que ce soit avec une trisomie ou avec une déficience intellectuelle.
Ah oui, c'est
bien
dit ça. Ils n'ont pas eu la chance. Alors, comment vous présentez le handicap de Martin autour de vous?
Moi, je l'ai fait d'emblée parce que si je parle de ma famille puis que je raconte une anecdote, admettons que je dis en fin de semaine, j'ai gardé mon frère, les gens vont me demander il y a quel âge.
Uh-huh.
Quand tu réponds 29 ans, sans spécifier qu'il y a une déficience intellectuelle,
ouais.
C'est un peu étrange.
Ouais.
D'emblée, quand ça vient dans la discussion, c'est la première chose que je spécifie parce que ça a déjà créé des confusions chez des gens.
J'imagine.
Oui, mais j'ai jamais, mis à part, c'est ça, dans la petite, en préadolescence, là, dans la petite phase, sinon, j'ai jamais eu de difficulté à le dire aux gens.
Mm-hmm.
Je le dis d'emblée pour que ce soit plus simple pour tout le monde.
Oui, oui. Et est-ce que d'échanger avec d'autres frères et sœurs qui vivent une situation semblable à la vôtre vous apporte quelque chose de bon, vous fait du bien?
En fait, moi, j'ai pas eu la chance réellement de côtoyer d'autres frères et sœurs. Dans la capsule vidéo, je suis avec une autre sœur d'un jeune trisomique. Par contre, on s'était rencontrés quelques fois seulement avant la capsule vidéo, mais j'ai jamais réellement ressenti le besoin de le faire. Probablement parce que ma relation avec mon frère est très positive, parce que je ressens pas de difficultés par rapport à mon frère, qu'il est facile à vivre et tout. Ce qui fait que j'ai jamais ressenti le besoin d'échanger avec d'autres frères et sœurs. Par contre, c'est sûr que si une relation est plus conflictuelle, je comprendrais les gens d'avoir un besoin d'aller communiquer avec d'autres.
Oui, diriez-vous que vos parents ont joué un rôle important dans le fait que vous viviez avec le handicap de votre frère de façon, comment dire, très, très saine?
Oui, mes parents ont vraiment eu un gros rôle à jouer là-dedans. Ils nous ont tous élevés de la même façon. Moi, j'ai une grande sœur aussi aînée, ce qui fait que j'ai jamais réellement remarqué la différence dans l'évolution de mon frère. Oui, il était trisomique, mais il était traité de la même façon que nous,
Oui.
ce qui fait que moi, je l'ai toujours traité de la même façon que je traite ma sœur ou n'importe qui d'autre.
Alors, le regard des autres, on ira voir ça dans la capsule vidéo qui est mise en ligne, j'imagine, en ce moment. Est-ce que vous êtes allé jeter un coup d'œil à trisomie.qc.ca?
Je suis pas allée voir, mais je sais que c'est à chaque mardi, donc si elle n'est pas encore mise en ligne, elle devrait l'être sous peu.
Oui, parce qu'habituellement, c'est plus tard, un peu plus tard dans la journée, mais on ira faire notre tour. Trisomie.qc.ca. Avez-vous aimé votre expérience?
J'ai adoré
Oui.
l'expérience. Oui, c'était vraiment enrichissant de rencontrer d'autres personnes.
Alors, un grand merci Isabelle Simonato, sœur de Martin et membre du regroupement pour la trisomie 21. Au plaisir de se reparler peut-être un jour.
Oui, merci beaucoup. Bonne journée.
Vous aussi. Une nouvelle tirée de Radio-Canada, la ville de Rimouski réduit massivement les subventions de quatre organismes du secteur de la santé. La motion adoptée lors du conseil municipal lundi soir réduit l'appui financier de la ville de moitié dans certains cas. La subvention de la Fondation du Centre hospitalier régional de Rimouski diminue de 50 % passant de 20 000 à 10 000 $. C'est aussi le cas de l'Association du cancer de l'Est du Québec qui voit sa subvention diminuer de 10 000 $ à 5 000 $. La Fondation Maison Marie-Élisabeth écope aussi d'une baisse importante. Le montant octroyé par la ville passe de 40 000 $ à 25 000 $. L'appui financier accordé à la ressource d'aide aux personnes handicapées diminue aussi de 4 000 à 3 000 $. Pour justifier ces coupes, le maire de Rimouski, Marc Parent, affirme que la ville manquait de marge de manœuvre dans le budget 2018 et voulait limiter la hausse des taxes. Ce n'est absolument pas un désaveu de la part de la ville de Rimouski sur l'importance de leur travail, mais on se retrouve vraiment dans une situation où l'on doit faire des choix difficiles si on veut maintenir notre engagement face à notre budget 2018. Le maire précise que le conseil a choisi de couper davantage dans les secteurs qui étaient plus éloignés de la mission fondamentale d'une ville. Il a par exemple indiqué que la santé était de juridiction provinciale. Nouvelle tirée du Journal de Montréal, des familles de la Mauricie ont lancé une seconde offensive lundi pour dénoncer la qualité des soins prodigués à un de leurs proches vivant en CHSLD. Quelques semaines après avoir annoncé leur intention d'intenter un recours collectif contre le CIUS pour des soins payés mais non reçus, ils se sont rendus en matinée au bureau du député libéral Pierre-Michel Auger pour sommer le gouvernement d'agir. Les préposés sont rendus à nous dire où on les lave, où on les habille. Quand je vais voir ma mère et qu'elle est habillée, je me demande si elle a été lavée, a relaté Francine Rochette. Chacun avec sa propre histoire. Des repas au changement de couche, les proches plutôt doivent régulièrement se substituer aux professionnels de la santé qui sont débordés. On parle souvent de mourir dans la dignité, mais est-ce qu'on peut aussi vivre dans la dignité? A lancé avec aplomb André Ferron, dont la mère réside en CHSLD. Le député les a écoutés durant une trentaine de minutes et a promis de faire un compte-rendu au ministre de la Santé, Gaétan Barrette. Ce n'est pas un problème d'argent, c'est un problème de main-d'œuvre, a tranché le député qui n'exclut pas de se rendre dans un CHSLD pour une visite surprise afin de constater par lui-même les lacunes. Selon le syndicat, une préposée sur deux quitte ses fonctions dans les semaines suivant sa formation. J'ai le plaisir maintenant de parler avec Christine Rousseau, animatrice des émissions Voir grand et de Ça me regarde à Ami Télé. On parle entre autres de Voir grand, une série documentaire consacrée aux maladies de l'œil et aux avancées scientifiques dans ce domaine. Bonjour Christine.
Bonjour.
Alors, dans ce que j'ai lu dans la documentation, on parle de l'œil comme étant une délicate horlogerie, une caméra optique, la caméra optique la plus perfectionnée au monde, et c'est vraiment fascinant. Alors, j'imagine que Voir grand est une série fascinante. D'abord, bravo pour le titre, Voir grand, c'est très, très bien choisi. En quelques phrases, pouvez-vous nous résumer cette émission, cette série d'émissions?
Oui, en fait, c'est une série documentaire qui va nous entraîner là, au cœur de la recherche qui se fait présentement au Québec pour plein de maladies de l'œil. Donc, que ce soit la DMLA, la rétinite pigmentaire, le glaucome, il y a plusieurs maladies de l'œil dont plusieurs Québécois sont atteints.
Pourquoi vous avez choisi l'angle scientifique pour parler des maladies de l'œil?
Ben, ce qui est bien, j'aime beaucoup cette question-là parce que ça vient des gens eux-mêmes. Donc, vous savez, chez Ami Télé, il y a un panel, entre autres, là, qui nous alimente. Donc, c'est des gens qui viennent, qui vivent la situation et qui veulent contribuer et donner leurs suggestions au niveau du contenu. Puis c'est venu des gens eux-mêmes qui vivent, par exemple, avec une maladie de l'œil et qui voulaient savoir vraiment qu'est-ce qui se passe présentement en recherche. Parce que vous savez, c'est vraiment pas évident, hein, s'informer nous-mêmes sur ce qui se passe présentement en recherche. Alors, c'est comme ça qu'Ami Télé a voulu répondre aux besoins qui ont été exprimés.
Alors, parlez-nous du déroulement d'une émission, là, parce qu'il va y avoir un aspect scientifique et aussi des gens qui ont les problèmes dont vous avez parlé tantôt, là, des maladies de l'œil, qui vont venir témoigner.
Oui. Oui, c'est ça. En fait, on va aller autant dans les laboratoires qu'on va aller rencontrer des gens qui vivent la maladie et qui donc parfois reçoivent les traitements en question là, dont on parle dans l'émission. Donc, c'est vraiment autant scientifique qu'humain.
Alors, c'est vraiment un beau concept et on va pouvoir voir ça à Ami Télé. La première fois, c'est le mardi à 20h30, mais il y a d'autres diffusions.
Exactement. Donc, la première diffusion a lieu les mardis à 20h30, effectivement. Et ensuite, c'est rediffusé aussi les samedis à midi. Mais parce que là, il y a plusieurs, on en a à peu près quatre là, qui ont déjà été diffusées. Donc, on peut aller les revoir là, très, très facilement sur le site amitélé.ca. Et on a aussi très prochainement là, la nouvelle application Ami. Donc, ça va être super facile là, d'aller accéder aux anciens épisodes de Voir grand.
Mais c'est merveilleux.
Et ce soir, il y en
oui.
a une.
Ben oui, comme on est mardi, c'est ça, je voulais vous demander le sujet de l'émission de ce soir.
Ce soir, c'est sur les gènes. Donc, voir au-delà des gènes, c'est un de mes épisodes préférés. Il y en a plein, ils sont tous mes préférés.
Je vous dirais,
mais voir au-delà des gènes, c'est vraiment spectaculaire de voir surtout là, les travaux du docteur Gilbert Bernier. En fait, on prend le cas type de la rétinite pigmentaire dans cet épisode-là, sauf que ça va aider à plein de gens qui ont leur maladie de l'œil, par exemple, va affecter les cônes au niveau de la rétine. Mm-hmm. Donc, ça va aider autant les gens qui, comme moi, ont le stargardt, les gens qui ont la rétine pigmentaire, je l'ai dit, la dystrophie des cônes et des bâtonnets, la morose de Leber. Donc, vraiment, tous les gens là, qui sont à la maison, qui ont une maladie de l'œil, qui touchent les cônes de la rétine, manquez surtout pas cet épisode-là sur les gènes.
Alors, je vous entends parler, il y a des mots quand même assez scientifiques, mais j'imagine que vous réussissez à vulgariser la recherche scientifique dans l'émission.
C'est l'objectif.
Oui.
C'est vraiment l'objectif. On veut rendre ça facile, mais les mots que j'ai utilisés, c'est vraiment le nom des maladies. Mais après ça, là, vraiment, on va tout vous décortiquer expliquer ça pour qu'à la fin, vous compreniez là, très, très bien.
Bon, c'est merveilleux. Quelles sont les émissions à ne pas rater? Vous avez dit que toutes les émissions étaient vos émissions chouchou, oui. Mais si, vous en, si on vous en demandait une ou deux autres?
Je dirais que ben, c'est sûr que l'implant Argus 2 qui a été diffusé déjà était vraiment, vraiment impressionnant. Il y en a un autre aussi que j'ai beaucoup, beaucoup aimé. C'est l'épisode sur la cornée. Celui-là, il n'est pas encore diffusé, donc ce sera l'avant-dernier. Sur la cornée, c'est tellement spectaculaire. On réussit maintenant à fabriquer en laboratoire des cornées.
Oh wow.
Donc, pour tous les gens là, qui ont des problématiques au niveau de la cornée, on sait que souvent, ça peut mener à presque une cécité. Là. Mm-hmm. Donc,
alors, ce sont des émissions qui donnent beaucoup d'espoir aussi. Hein?
Oui.
Oui. Et Christine,
même que... si, parfois, c'est pas nécessairement là, dans, à très, très court terme, mais on se dit qu'au moins, si c'est efficace à moyen, long terme, oui. On a de quoi avoir de l'espoir, oui.
Et quel public visez-vous avec cette série documentaire?
Mais c'est sûr que tout d'abord, c'est les gens qui vivent avec la maladie puis qui veulent avoir de l'information. On veut savoir qu'est-ce qui s'en vient pour nous, mais aussi pour les gens, les proches, les gens de leur famille et pour tout le monde qui veut en connaître davantage. Parce qu'honnêtement, les maladies de l'œil, ça touche énormément de gens.
Oui, oui, c'est vrai. Puis avec les gens qui vieillissent, bien, à un moment donné, on ne peut pas y échapper.
Oui, si on pense seulement à la DMLA, par exemple, la dégénérescence maculaire liée à l'âge, à partir de 65 ans, là, ça touche une personne sur trois, une personne sur quatre. Les statistiques là, sont très, très effarantes là-dessus. Donc, éventuellement, je pense qu'on va tous être de près ou de loin là, touchés par les maladies de l'œil.
Eh oui, Christine Rousseau, animatrice des émissions « Donc, ça me regarde » et « Voir grand » qu'on regarde le mardi à 20h30, mais aussi en rediffusion sur le site Internet, c'est Ami Télé. Puis votre site, c'est pas compliqué, amitélé.ca?
.ca, tout simplement. Puis la prochaine, puis l'application mobile qui s'en vient, ça va être Ami, tout simplement.
On retient ça. Merci beaucoup, Christine Rousseau.
Merci à vous.
Bonne journée.
Au revoir.
Une nouvelle tirée de Radio-Canada.ca. Le gouvernement de la Nouvelle-Écosse devrait présenter ses excuses pour l'internement de personnes handicapées, selon un professeur qui dénonce l'inaction de la province après un rapport accablant présenté il y a 12 ans. Le professeur Kayser, qui enseigne à la faculté de droit de l'Université Dalhousie à Halifax, estime que la province aurait dû trouver des foyers de soins pour des patients gardés en institution après la réception d'un rapport reçu par le ministère provincial de la Santé en avril 2006. Le rapport indépendant indiquait qu'au moins la moitié des 19 patients d'un hôpital psychiatrique de la Nouvelle-Écosse se trouvaient dans des endroits verrouillés à clé et que certains de ces patients y étaient gardés contre leur gré parce que la province ne les transférait pas dans un foyer de soins adapté au sein de la communauté. Cette situation est clairement de l'internement sans raison, estimaient les deux experts du traitement des handicaps intellectuels et des maladies mentales sévères. La Nouvelle-Écosse doit s'excuser pour son échec, affirme le professeur Kayser, pour qui ce rapport est ahurissant et perturbant. La Commission des droits de la personne de la Nouvelle-Écosse entend ces jours-ci à Halifax une plainte au sujet des droits des personnes handicapées. La STM avance vers l'arrière. Le regroupement des aveugles et amblyopes du Montréal métropolitain, le RAM, juge inacceptable le remplacement actuel en cours par la STM des claviers bancaires intégrés à ses distributrices automatiques de titres et à ses bornes de rechargement et lui demande d'y mettre fin immédiatement. Cette décision pénalise indûment les voyageurs aveugles et malvoyants qui, après de chaudes luttes qui ont duré au moins 4 ans, profitaient d'une fonctionnalité qui leur permettait d'acheter leurs titres via ces appareils comme tout le monde. La STM justifie cette décision en invoquant des pressions qui seraient exercées par ses fournisseurs externes qui exigeraient qu'elle remplace ses claviers. Or, le modèle de remplacement n'incorporerait plus la rétroaction sonore dont les personnes aveugles et malvoyantes ont besoin pour finaliser l'achat de titres. Qui donc définit les besoins de la STM? La société de transport ou ses fournisseurs? La société de transport ou ses fournisseurs? Leur a-t-elle transmis ses exigences en matière de fonctionnement des claviers bancaires, y compris la nécessité d'une rétroaction sonore? Sinon, pourquoi? Si oui, pourquoi accepte-t-elle d'installer des équipements inutilisables par une partie des voyageurs? Pourtant, la STM se dotait en 2011 d'une politique en accessibilité universelle qui ultimement vise à ce que l'ensemble des voyageurs profitent des services offerts par la société de transport. En retirant la fonctionnalité sonore de ses équipements liés à la vente de ses titres de transport, la STM commet une entorse des plus significatives à cette politique. Les personnes aveugles et malvoyantes devront, comme c'était le cas avant 2012, se rabattre sur les points de vente externes, pharmacies, dépanneurs, etc., ou sur les services des changeurs lorsqu'ils sont présents dans leur loge pour se procurer leur titre de transport. Et notre invitée Christine Rousseau nous en parlait. Accessibilité Media Inc. AMI a annoncé le lancement de deux nouvelles applications accessibles conçues spécifiquement pour les personnes vivant avec une incapacité visuelle. Les applications d'AMI offertes pour iOS et tvOS ont été développées localement par l'entreprise torontoise The Working Group, TWG. Ce projet a nécessité environ 6 mois de travail et impliqué des semaines de recherche et d'essais avec des membres du public cible d'AMI afin que les applications satisfassent à toutes les exigences requises en matière d'accessibilité. En ce qui a trait à l'accessibilité, ces applications offrent le sous-titrage codé pour tout le contenu, des améliorations d'accessibilité telles que le texte en gras, un affichage à contraste élevé, des tutoriels pratiques qui expliquent toutes les fonctionnalités des applications, et le plus important pour le public de base d'AMI, la vidéo description intégrée dans toutes les émissions. Les utilisateurs peuvent regarder du contenu AMI original en tout temps, ou dans le confort de leur foyer, ou encore télécharger leurs émissions AMI favorites pour les regarder plus tard. Les applications d'AMI offertes en français et en anglais sont téléchargeables gratuitement à partir de l'App Store d'Apple. Pour de plus amples informations sur AMI et sur ses programmes et initiatives, visitez le site amitélé.ca ou ami.ca. Suivez Accessibilité Média Inc. sur Twitter, @amitélé1. Merci à mes invités, Christine Rousseau d'Amitélé et Isabelle Simonato, sœur de Martin et membre du regroupement pour la trisomie 21. Merci à mon équipe, Anne-Laure Janson et Maurice Bolduc. Ici Hélène Denis qui vous souhaite une belle journée. Merci à vous d'avoir été là.